L'île au trésor par Robert Louis Stevenson, 8e cassette, 2e face, page 188. À présent, je me trouvais seul à bord. La marée venait de changer. Le soleil était si près de se coucher que déjà l'ombre des pins de la rive ouest s'étendait à travers le mouillage et traçait des dessins sur le pont. La brise du soir s'était levée. Bien qu'elle fût arrêtée du côté de l'ouest par la colline aux deux pics, les cordages chantaient doucement et les voiles inertes claquaient de ci, de là. Le navire me parut en danger. J'eus au fait d'amener les focs qui s'abattirent sur le pont, mais la grand voile présentait un problème beaucoup plus difficile. Naturellement, lorsque la goélette s'était mise à la bande, le gui avait glissé hors bord de sorte que son extrémité et deux pieds de la voile, c'est-à-dire 60 cm environ, trempaient dans l'eau. Je jugeais que ceci rendait la situation encore plus dangereuse. Mais la tension était si forte que j'avais peur d'intervenir. Finalement, je pris mon couteau et coupai les drisses. Le pic tomba aussitôt et un gros ballon de toile vint s'étaler sur l'eau. C'est là tout ce que je pus faire. Quant au reste, la goélette devait s'en remettre à la chance, comme moi-même. Pendant ce temps, l'ombre avait envahi tout le mouillage. Les derniers rayons du soleil, je m'en souviens, se glissaient par une clairière du bois et brillaient comme des joyaux sur le manteau fleuri de l'épave. Il commençait à faire froid. Le reflux filait vers le large à vive allure. L'Hispaniola était de plus en plus engagée, c'est-à-dire de plus en plus enfoncé dans le sable. Après avoir rampé jusqu'à l'avant, je me penchai par-dessus le bastingage. L'endroit m'ayant paru peu profond, j'empoignai à deux mains l'haussière coupée pour plus de sécurité, c'est une corde, et me laissai tomber doucement dans la mer. L'eau me venait à peine jusqu'à la taille. Le sable était ferme et couvert de rides. Plein d'entrain, je pataugeai vers le rivage, laissant la goélette couchée sur le flanc, sa grand voile flottant sur la baie. À ce même instant, le soleil disparut presque tout à fait et la brise se mit à siffler doucement dans le crépuscule en agitant la cime des pins. À tout le moins, j'en avais fini avec la mer et je ne revenais pas de mon aventure les mains vides. La goélette était là, enfin débarrassée des boucaniers, prête à recevoir nos hommes pour reprendre le large. Je n'avais plus qu'une envie, regagner au plus vite le fortin pour me vanter de mes exploits. Peut-être me reprocherait-on un peu mon escapade, mais la capture de l'Hispaniola était un argument sans réplique, et j'espérais que le capitaine Smollett lui-même reconnaîtrait que je n'avais pas perdu mon temps. Plein d'allégresse à cette idée, je me mis en route vers le fortin et mes compagnons. Je me rappelais que des deux rivières aux cours paresseux qui vont se jeter dans la baie du capitaine Kidd, l'une située plus à l'est descendait de la colline aux deux pics, sur ma gauche. Je dirigeai mes pas dans cette direction afin de pouvoir franchir le cours d'eau avant qu'il fût trop large. Les arbres étaient assez clairsemés et en longeant les contreforts inférieurs, j'eus au fait de contourner la colline. Peu de temps après, je franchissais la rivière à gué avec de l'eau jusqu'au mollet. Ceci m'amena près de l'endroit où j'avais rencontré Ben Gunn et je commençai à avancer avec plus de prudence en regardant attentivement de tous côtés. La nuit était presque tombée. Lorsque la brèche entre les deux pics apparut à mes yeux, j'aperçus une lueur vacillante dans le ciel et j'en conclus que l'homme de l'île devait faire cuire son souper devant un feu ronflant. Néanmoins, je m'étonnais beaucoup de son imprudence, car si je voyais cette clarté, ne pouvait-elle pas aussi bien frapper l'œil de Silver et de ses compagnons dans leur campement au milieu du marécage. Peu à peu, la nuit devenant plus noire, j'eus beaucoup de mal à me diriger vers mon but, même approximativement. La double colline derrière moi et la longue vue à ma droite s'estompaient de plus en plus. Les étoiles étaient rares et sans éclat. Sur les basses terres où j'errais, je ne cessais de trébucher au milieu des buissons et de tomber dans des trous sablonneux. Soudain, je fus baigné d'une vague clarté. Une lueur pâle nimbait le sommet de la longue vue, et peu de temps après, je vis un large disque d'argent surgir, très bas à l'horizon, derrière les arbres. La lune venait de se lever. Guidé par cette lumière, je franchis rapidement le trajet qui me restait encore à couvrir. Tantôt marchant, tantôt courant, je me rapprochais du fortin, plein d'impatience. Néanmoins, au moment de pénétrer dans le bois situé devant la palissade, j'eus assez de bon sens pour ralentir le pas et avancer avec prudence. En effet, c'eût été finir piteusement mon aventure que de me faire tuer par erreur par mes propres amis. La lune devenait plus haute, sa clarté commençait à tomber çà et là, en larges flaques, dans les parties les moins touffues du bois. Soudain, droit devant moi, une lueur de couleur différente apparut parmi les arbres. Elle était d'un rouge ardent, et parfois elle s'obscurcissait un peu, comme si elle provenait des tisons d'un énorme feu sur le point de s'éteindre. Je n'avais pas la moindre idée de ce que cela pouvait être. Finalement, j'arrivai à la limite de la clairière. Son extrémité ouest était déjà baignée de clair de lune. Le reste, et le fortin lui-même, demeurait encore plongé dans une obscurité opaque, zébrée de longues bandes de lumière argentée. De l'autre côté du fortin, un énorme feu achevait de se consumer en braises de couleur vive, dont le rouge éclat contrastait fortement avec la douce pâleur de la lune. Pas une âme ne bougeait. Il n'y avait pas d'autre bruit que le sifflement de la brise. Je m'arrêtai, en proie à la surprise et peut-être à une certaine terreur. Nous n'avions pas l'habitude de faire de grands feux, car par ordre du capitaine, nous ménagions beaucoup le bois à brûler. Je commençai donc à craindre qu'un malheur ne fût arrivé au cours de mon absence. Je fis le tour de la palissade par l'extrémité est, en ayant soin de rester dans l'ombre. Puis je la franchis à un endroit propice où les ténèbres étaient particulièrement denses. Pour ne négliger aucune prétention, je me mis à quatre pattes et rampai, sans faire de bruit, vers le coin du fortin. Soudain, tandis que j'approchais du but, j'éprouvai un grand soulagement. Ce n'est pas un bruit agréable en soi, et j'ai souvent eu l'occasion de m'en plaindre en d'autres circonstances, mais à ce moment-là, ce fut une véritable musique pour mon oreille que d'entendre mes amis ronfler en chœur, si fort et si paisiblement. L'appel de la vigie en mer, ce magnifique « tout va bien », ne m'apporta jamais un si grand réconfort. Néanmoins, il y avait une chose certaine. Il se gardait d'une façon déplorable. En supposant que Silver et ses acolytes se fussent trouvés à ma place, pas un seul homme de notre groupe n'aurait vu le lever du jour. Cela ne se serait pas produit, me dis-je, si le capitaine n'était pas blessé. Et de nouveau, je me reprochais vivement de les avoir abandonnés dans un danger pareil, alors qu'ils étaient si peu nombreux pour veiller. Cependant, j'étais arrivé à la porte et je me redressai. Je ne pus rien distinguer à l'intérieur où régnaient d'opaques ténèbres. D'autre part, je n'entendais que le ronflement régulier des dormeurs et parfois de petits bruits semblables à des froissements de plumes ou à des coups de bec, parfaitement inexplicables pour moi. J'entrai d'un pas ferme, les bras tendus en avant. J'avais l'intention, et j'en riais en silence, d'aller m'étendre à ma place habituelle pour me moquer ensuite de la mine que feraient mes compagnons quand ils me trouveraient le lendemain matin. Mon pied heurta un objet mou, la jambe d'un dormeur qui se retourna en grognant, mais sans s'éveiller. Puis, brusquement, une voix stridente se mit à crier dans les ténèbres. « Pièce de vite, pièce de vite, pièce de vite, pièce de vite, pièce de vite !» Et ainsi de suite, sans arrêt ni changement de ton, comme le cliquetis d'un minuscule moulin. Capitaine Flint, le perroquet vert de Silver. C'était lui que j'avais entendu becqueter un morceau d'écorce. C'était lui qui, montant la garde mieux qu'aucun être humain, annonçait ainsi mon arrivée avec sa fastidieuse rengaine. Je n'eus pas le temps de retrouver mes esprits. Éveillé par la voix grinçante du perroquet, les dormeurs se levèrent d'un bond. Puis j'entendis Silver proférer un horrible blasphème et crier « Qui va là ?» Je fis demi-tour pour m'enfuir, me cognai violemment contre quelqu'un, reculai, puis tombai dans les bras d'un second individu qui les referma aussitôt et me tint solidement. « Apporte une torche, Dick !» ordonna Silver quand ma capture fut ainsi assurée. Sur ce, un des hommes sortit du fortin et revint bientôt porteur d'un tison enflammé. Sixième partie, le capitaine Silver. Chapitre 28, dans le camp ennemi. À la lueur rouge de la torche éclairant l'intérieur du fortin, je vis que mes pires craintes se trouvaient réalisées. Les pirates étaient en possession des lieux et des provisions. Il y avait là, comme auparavant, le tonnelet de cognac, le porc et le biscuit. Mais ce qui décupla mon horreur, il n'y avait pas la moindre trace de prisonniers. Ceci m'amenait à conclure que mes compagnons avaient tous péri, et ma conscience me reprocha amèrement de n'avoir pas été là pour mourir avec eux. Je comptais en tout 6 boucaniers. Les autres étaient morts. 5 d'entre eux, brusquement tirés du premier sommeil de l'ivresse, se tenaient debout autour de moi, le visage rouge et bouffi. Le 6e n'avait pu que se soulever sur un coude. Il était d'une pâleur mortelle. Le bandage taché de sang qui lui entourait la tête, révélait qu'il venait d'être blessé récemment et pensé plus récemment encore. Je me rappelais que lors de la grande attaque, un pirate, atteint d'un coup de feu, s'était sauvé dans les bois, et je ne doutais pas que ce fût lui. Perché sur l'épaule de Long John, le perroquet se lissait les plumes. Silver lui-même me parut plus pâle et plus sérieux que d'habitude. Il avait encore le bel habit de drap fin qu'il portait au moment de son ambassade, mais ce costume était en bien piteux état, maculé de glaise, déchiré par les ronces du bois. « Tiens !» s'exclama-t-il. « Voilà Jim Hawkins, mille sabords. Tu es venu nous faire visite, hein ? Allons, avance. Je trouve ça très aimable de ta part. » Ce disant, il s'assit sur le tonnelet d'eau-de-vie et commença à bourrer sa pipe. « Passe-moi donc la torche, Dick !» reprit-il. Puis, quand son tabac fut bien pris, il ajouta. « Ça va, mon gars, colle la camoufle sur le tas de bois. Et vous, messieurs, mettez en panne. Pas la peine de rester debout pour monsieur Hawkins. Il vous excusera, je vous en fiche mon billet. » « Ainsi, Jim, te voilà. Et c'est une agréable surprise pour le vieux John. J'ai compris que tu étais un malin la première fois que je t'ai vu. Mais ce coup-ci, tu m'épates bougrement. » Comme on peut l'imaginer, je ne répondis pas un mot à tout ceci. On m'avait placé le dos contre le mur et je restais là debout, regardant Silver bien en face, dans une attitude assez crâne, je l'espère, mais le cœur plein d'un profond désespoir. Long John tira 2 ou 3 bouffées de sa pipe avec le plus grand calme. Puis il reprit la parole en ces termes. « Ma foi, mon petit Jim, du moment que te voilà, je vais te causer franchement. Je t'ai toujours eu à la bonne parce que tu es un gars courageux. Mon portrait tout craché du temps que j'étais jeune et beau. J'ai toujours eu envie que tu viennes avec nous pour que tu prennes ta part du magot et que tu finisses tes jours dans la peau d'un type de la haute. Or maintenant, mon gaillard, tu peux pas faire autrement. Le capitaine Smollett, c'est un bon marin. Je suis le premier à le reconnaître. Vas-y, le drôlement à cheval sur la discipline. Le devoir, c'est le devoir, qui dit. Et il a bougrement raison. T'approches pas du capitaine, Jim. Même le docteur est très monté contre toi et te traite de chenapan ingrat. En deux mots, voilà toute l'histoire. Tu ne peux pas rejoindre tes amis parce qu'ils veulent pas de toi. Et sauf que tu veuilles faire une troisième bande à toi tout seul, ce qui manquerait de compagnie, faut que tu passes du côté du capitaine Silver. Jusque-là, tout allait bien. Mes amis étaient donc encore en vie. Tout en croyant qu'ils m'en voulaient de ma désertion, comme l'affirmait Silver, je me sentais plus soulagé qu'alarmé par ce que je venais d'entendre. « J'insiste sur le fait que tu es entre nos mains, » poursuivit le cuisinier, « et pourtant tu y es bien. Je t'en fiche mon billet. Moi, je suis pour les raisonnements. Les menaces, ça ne donne jamais rien de bon. Si ça te plaît de servir sous mes ordres, viens avec nous. Si ça te plaît pas, Jim, ma foi, tu es libre de répondre non. Libre comme l'air, camarade. Que le diable m'emporte si jamais un marin à parler plus loyalement. Est-ce que je dois répondre ? Demandai-je d'une voix tremblante, car tout au long de ce discours sarcastique, j'avais senti la menace de la mort suspendue au-dessus de ma tête, de sorte que mes joues étaient en feu et que mon cœur battait douloureusement dans ma poitrine. « Mon petit gars, personne ne te presse. Fais ton relèvement. Nous, on ne te bousculera pas, camarade. Le temps passe très agréablement en ta compagnie. » « Eh bien, répliquai-je en m'enhardissant, s'il me faut choisir, j'estime que j'ai le droit de savoir de quoi il retourne, pour quelle raison vous êtes ici et où se trouvent mes amis. »« De quoi il retourne ?» grommela un des boucaniers. « Celui-là qui ne saurait pas, il aura une rude veine. »« Toi, je te prie de condamner tes panneaux jusqu'à ce qu'on te cause, » cria Silver d'une voix farouche à l'adresse de l'interrupteur. Condamner tes panneaux, ça veut dire fermer les panneaux qui bouchent les trous dans le pont qui conduisent à la cale. C'est une manière de dire fermer ta gueule. Ensuite, reprenant son ton gracieux, il me répondit en ces termes. Hier matin, monsieur Hunkins, pendant le premier quart, voilà le docteur Livesey qui s'amène un drapeau blanc à la main. « Capitaine Silver, qui me dit, vous êtes trahi. Le bateau a disparu. »« Ma foi, je dis pas qu'on n'avait pas pris un verre et chanté un peu pour le faire descendre. Mais il y en avait au moins un de nous qui avait monté la garde. »« Alors voilà qu'on se tourne du côté de la mer. Et mille tonnerres, le bateau était plus là. »« J'ai jamais vu une bande d'andouilles avoir l'air plus abasourdi. » Et j'avais l'air plus abasourdi que tous les autres, je t'en fiche mon billet. Eh bien, que dit le docteur, nous allons faire un marché. On a fait le marché, lui et moi, et nous voilà installés ici. Les provisions, l'eau de vie, le fortin, le bois à brûler que vous avez eu l'intention de couper. Bref, comme qui dirait, tout le sacré bâtiment, depuis les barres de hune jusqu'à la carlingue, tout ça est à nous. Quant à eux, ils ont déguerpi et je sais pas où ils sont passés. Il tira tranquillement une nouvelle bouffée de sa pipe. Puis il ajouta. Et des fois que tu te serais fourré dans la tête que t'étais compris dans le traité, voici les derniers mots qu'on a échangés. Combien que vous êtes à partir, que j'ai demandé. Quatre qui m'a répondu. Quatre dont un blessé. Quant à ce gamin, j'ignore où il est. Et je m'en moque. Il peut s'en aller au diable s'il veut, nous l'avons assez vu. Voilà ce qu'il a dit. C'est tout, demandai-je. Ma foi, c'est tout ce que tu dois savoir, fiston. Et maintenant, il me faut choisir. Et maintenant, il te faut choisir, je t'en fiche mon billet. Eh bien, dis-je, je ne suis pas assez bête pour ne pas me douter de ce qui m'attend. Même si le pire doit m'arriver, je m'en moque. J'ai vu mourir trop de gens depuis que je vous connais. Mais j'ai deux ou trois choses à vous dire. En premier lieu, vous êtes en mauvaise posture. Vous avez perdu le bateau, vous avez perdu le trésor et vous avez perdu des hommes. Tous vos projets sont ruinés et si vous voulez savoir à cause de qui, eh bien c'est à cause de moi. J'étais dans le tonneau de pommes le soir où nous sommes arrivés en vue de l'île. Je vous ai entendu causer, vous John, et vous Dick Johnson, et Hans, qui est maintenant au fond de la mer. Et j'ai répété chacune de vos paroles dans l'heure qui a suivi. Quant à la goélette, c'est moi qui ai coupé son amarre. C'est moi qui ai tué les deux hommes que vous aviez laissés à bord. C'est moi qui les conduite à un endroit où aucun de vous ne la verra jamais plus. Les rieurs sont de mon côté. J'ai monté toute cette affaire depuis le début. Je n'ai pas plus peur de vous que d'une mouche. Tuez-moi ou épargnez-moi à votre guise. Mais j'ai encore une chose à ajouter. Si vous m'épargnez, j'oublierai le passé. Et quand vous serez mis en jugement pour piraterie, je ferai tout mon possible pour vous sauver. C'est à vous de choisir. Ou bien vous me tuez, et cela ne vous sert de rien. Ou bien vous m'épargnez, et vous gardez un témoin qui peut vous éviter la potence. Je cessais de parler, car vous pouvez m'en croire, j'étais à bout de souffle. À ma grande stupeur, aucun de ces hommes ne bougea. Tous me regardaient d'un air ahuri comme un troupeau de moutons. Et pendant qu'ils gardaient les yeux fixés sur moi, je poursuivis en ces termes. « Monsieur Silver, je crois que vous êtes le meilleur de la bande. C'est pourquoi, si les choses en viennent au pire, je vous prie de bien vouloir dire au docteur comment je me suis comporté. » « Je m'en souviendrai, » répondit-il d'un ton si étrange que je ne pus absolument pas discerner s'il se moquait de ma requête ou s'il avait été favorablement impressionné par mon courage. « J'ai quelque chose à dire !» s'écria le vieux marin au teint d'acajou que j'avais vu dans la taverne de Long John sur les quais de Bristol. « C'est lui qui a reconnu ce chien noir !»« Et moi, j'ai encore autre chose à ajouter !»« Mille tonnerres !» s'exclama le cuisinier. « C'est ce même gamin qui a chapardé la carte à Billy Bones. Du début à la fin, on s'est échoué sur Jim Hawkins. »« Alors voilà pour lui !» dit Morgan en proférant un juron. « M-O-R-G-A-N, Morgan. » Et il se leva d'un bond, brandissant son coutelas avec autant d'agilité que s'il avait eu 20 ans. « Halte là !» s'écria Silver. « Pour qui tu te prends, Tom Morgan ?» C'est-tu que tu crois être capitaine, des fois? Par le diable, je vais te montrer que tu te trompes. Avise-toi de me contrer, et je t'enverrai là où de braves gars sont allés avant toi depuis 30 ans. Les uns pendus au bout d'une vergue, mille tonnerres, les autres par-dessus bord, et tous pour nourrir les poissons. Il n'y a pas un seul homme qui m'a tenu tête et qui a vu la lumière du jour le lendemain. Je t'en fiche mon billet, Tom Morgan. L'interpellé s'immobilisa, mais ses camarades poussèrent un grondement sourd. « Tom a raison, » dit l'un. « Je me suis laissé bousculer assez longtemps par le capitaine Smollett, » ajouta un autre. « Je veux être pendu si je me laisse bousculer par toi, John Silver. »« C'est-il que par hasard un de ces messieurs voudrait s'expliquer avec moi ?» demanda Long John d'une voix tonnante, en se penchant en avant, sa pipe toujours allumée dans sa main droite. « Dites carrément !» « Ce que vous fricotez, vous êtes pas muet, non ? Celui-là qui me cherche, il est sûr de me trouver. J'aurais pas vécu tant d'années pour qu'un sacré fils d'ivrogne vienne se coller en travers de ma route sur la fin de mon existence. Vous connaissez les usages, puisque vous êtes tous des gentilshommes de fortune. Que vous dites ? C'est bon, je suis prêt. S'il y en a un qui a assez de cran, il a qu'à prendre son couteau. » Et je lui fous les tripes au soleil, tout béquillard que je suis, avant que ma pipe soit vide. Pas un ne broncha. Pas un ne souffla mot. Alors, C'est ça, votre genre ? Reprit Silver en portant de nouveau sa pipe à sa bouche. Ma parole, vous faites une chouette équipe. Vous valez pas grand-chose pour ce qui est de la bagarre, c'est sûr. Mais peut-être que vous êtes capable de comprendre quand on vous cause. Je suis votre capitaine par élection. Je suis votre capitaine parce que je suis de loin le plus capable. Vous voulez pas vous battre, comme devraient le faire des gentils hommes de fortune. Eh ben alors, mille tonnerres, vous allez m'obéir. Je vous en fiche mon billet. Ce gamin qui est ici, il me plaît. J'en ai jamais vu qui vaille mieux que lui. Il a plus de cran à lui seul que toute votre bande de trembleurs. Et j'ai une bonne chose à vous dire. Que personne s'avise d'y toucher. Ou sans ça, oui, je vous en fiche mon billet. Ce discours fut suivi d'un long silence. Je me tenais droit et raide contre le mur. Mon cœur battait toujours comme un marteau de forgeron. Mais je voyais maintenant luire un rayon d'espoir. Silver, appuyé contre la paroi, les bras croisés, la pipe au coin de la bouche, avait l'air aussi calme que s'il eût été à l'église. Toutefois, il regardait sans cesse autour de lui à la dérobée et surveillait du coin de l'œil ses partisans rebelles. Ces derniers s'étaient peu à peu groupés à l'autre bout du fortin. Leur chuchotement résonnait sans arrêt à mes oreilles comme le murmure d'un ruisseau. Parfois, ils levaient la tête l'un après l'autre, et l'espace d'une seconde, la rouge lueur de la torche tombait sur leur visage inquiet, mais c'était vers Silver, et non vers moi, qu'ils tournaient les yeux. « Vous avez l'air d'avoir pas mal de choses à dire, » fit observer Long John, en crachant loin devant lui. « Allons, dégoisez-moi ça tout de suite, ou bien mettez à la cape, c'est-à-dire taisez-vous. » « Mande pardon, capitaine, » répondit un des pirates. « Mais si t'en prends un peu trop à ton aise avec certaines règles, on espère que tu voudras bien respecter les autres. L'équipage est pas content. L'équipage veut pas qu'on l'embête. L'équipage a des droits comme tous les autres équipages, je me permets de te le dire. Et d'après tes propres règles, nous avons le droit de discuter le coup entre nous. » « Mande pardon. » « Mande pardon, capitaine. Vu que je te reconnais comme mon capitaine, pour l'instant... Mais je réclame mon droit et je sors pour délibérer. » Fin de la deuxième piste de la huitième cassette, page 200, L'île au trésor par Robert Louis Stevenson.